Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
La ressourcerie de Lille, c'est 36 emplois, une implantation nantaise de longue date, 60% de réemploi et plus de 850 tonnes d'objets collectés grâce à des dons notamment. Pourtant, malgré cette activité conséquente et essentielle dans une logique d'économie sociale et solidaire, ainsi qu'une économie circulaire prônée par la ville de Nantes, la ressourcerie, en difficulté financière, va devoir fermer sa boutique le 25 février prochain, sachant que le comptoir du don est fermé depuis le 17 janvier. En cause, des lieux vétustes qui ne sont pas aux normes et impliquent des conditions de travail compliquées, voire impossibles. À l'heure actuelle, nous savons que Nantes Métropole va aider à hauteur de 150 000 euros la ressourcerie afin de payer les charges du local de revalorisation qui, lui, maintient son activité. Pour autant, cette question du lieu est un problème de longue date et ne semble pas encore trouver de solution ou d'accompagnement concret et définitif de la part de Nantes Métropole. Pour cet épisode de Mégaphone, nous vous proposons d'écouter à nouveau un extrait d'une émission enregistrée en septembre et octobre dernier, émission que certains et certaines d'entre vous connaissent bien, appelée Radio Métier, et réalisée par des stagiaires de Prépa Avenir, une formation disposée par la structure Espace Formation. Ce groupe, intéressé par la question du réemploi et du recyclage, s'est tourné vers la ressourcerie afin d'en faire un court reportage pour mieux comprendre les différents métiers qui existent là-bas et l'activité de la structure. Lors de cette visite, ils ont eu l'occasion d'interviewer Jocelyn Évrard, responsable communication, qui leur a fait une présentation complète du lieu. Nous souhaitons donc mettre l'accent sur la situation alarmante de la ressourcerie à Nantes et nous vous invitons à suivre cela de près. Bonne écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Très bien.
Bonjour. Bah, du coup, bienvenue à la ressourcerie.
Je m'appelle Maïmouna, je voulais vous poser quelques questions. Pouvez-vous présenter et dites-nous où on est ?
On est à la ressourcerie de Lille. Donc, la ressourcerie de Lille, c'est une association à but non lucratif engagée dans le réemploi d'objets du quotidien. Moi, je suis Jocelyn Évrard et je suis adjoint de direction et responsable communication à la ressourcerie de Lille. Donc, à la ressourcerie, c'est ici que tout commence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est une structure qui donne une seconde vie à des objets. Donc concrètement, ça veut dire que on offre la possibilité aux particuliers de venir donner leurs objets dont ils n'ont plus l'utilité. Et donc ça passe forcément par un espace pour pouvoir donner les objets. Et donc tout commence au comptoir de don.
Et comment vous trouvez les objets ? Et c'est gratuit ou bien ?
Alors les objets, c'est des dons de particuliers, de professionnels aussi, mais surtout de particuliers. Et la différence ici, on n'est pas un dépôt vente, donc c'est vraiment un don gracieux. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit en moyenne 3,8 tonnes d'objets qui nous sont donnés par des particuliers lors des jours d'ouverture. C'est à la fois une collecte d'objets, la valorisation, qui est l'étape clé, c'est-à-dire donner une seconde vie à ces objets, que ce soit par le nettoyage, des vérifications. Et ensuite, il y a la revente de ces objets à prix accessible, ça veut dire que ces objets doivent être à petit prix ou accessibles au plus grand nombre. Dernier point, c'est la sensibilisation. Ça reste un point important, donc c'est le quatrième pilier. C'est de montrer au grand public qu'il y a d'autres formes de consommation, de montrer que le réemploi, c'est, on va dire, c'est une vraie solution concrète aux enjeux d'aujourd'hui. Et que voilà, de sensibiliser l'ensemble des publics, que ce soit en milieu scolaire, lors d'animations, d'ateliers, que ce soit auprès du grand public, lors d'ateliers qu'on peut organiser ici à la ressourcerie, ou alors hors les murs en allant sur des événements, c'est vraiment de promouvoir le réemploi et la réduction des déchets comme voilà, des enjeux concrets et des solutions pour faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond.
Et combien de temps ça prend de réparer un objet ?
Alors ici, on ne va pas forcément les réparer, on va plutôt appeler ça la valorisation. Il y a des structures qui réparent, mais nous, on va être plutôt dans des étapes de vérification, de tri par catégorie d'objets, de nettoyage. Quand c'est des jouets, de compter le nombre de pièces, si c'est un jeu de société par exemple. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le remettre en circuit le plus vite possible. Mais on va dire qu'un objet qui est déposé le mardi. Au plus tard, il sera le vendredi ou le samedi en boutique. Donc là, on est dans le cœur de l'activité. On est au centre de valorisation et de tri. Ici, maintenant, tous les objets nous arrivent et je vais vous présenter un peu les différents espaces de tri. Et on a Perrine qui a... C'est son poste de travail où elle va trier le textile. Donc, c'est soit dans des bacs gris, soit dans le gros carton là. Elle va aller piocher dedans et puis là, l'ensemble des caddies lui permettent de dispatcher selon les catégories qu'on a données. Donc ici, ça va être les manteaux plutôt pour l'hiver. On a... je connais pas tout, mais voilà, c'est de se dire, s'il y a des vêtements été, on va les mettre dans un caddie pour les mettre en stockage, en palette pour l'été. Ce qu'il y a de saison, on va le mettre dans un autre caddie. S'il y a une collecte particulière pour un événement, on va le mettre dans un autre caddie, etc. Et à la fin, ici, on est sur la zone de réassort. Donc, pour l'instant, qui est vide, mais au fur et à mesure que c'est traité, les objets vont être apportés ici. Et on va charger les camions, hop, et ça part de l'autre côté, et ça retourne à la ressourcerie.
Combien de personnes travaillent dans cette ressourcerie ?
Aujourd'hui, on a 38 salariés à l'heure actuelle. On a une majorité de CDI, c'est aussi ce qui fait notre force et notre modèle. À côté de ça, on a aussi des emplois en insertion. Donc c'est des personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui, par le biais d'un emploi à la ressourcerie, remettent un peu le pied à l'étrier et retrouvent une activité. Et on a aussi quelques CDD, là, des renforts plutôt pour venir nous aider sur la période. Et on a un apprenti en communication. J'ai oublié aussi, on a quand même une douzaine de bénévoles actifs au quotidien. Ici, là, on va entrer dans la zone qu'on appelle de réassort. Donc les objets nous sont revenus, ont été conditionnés, ont tout préparé, donc ça c'est tous les vêtements. Ici, c'est ce qui nous revient en papeterie, etc. Là, on est plutôt sur la vaisselle. Et donc là, on va venir se servir comme dans un petit marché pour alimenter notre boutique. C'est ça qui est intéressant en ressourcerie, c'est que c'est tous les objets du quotidien. Ça permet non seulement de valoriser l'objet, mais aussi de valoriser la structure qui va le recevoir. Puisque un don, quelque part, on n'est pas dans un rachat, donc il a une autre valeur, l'objet. Et en plus, ça nous fait du bien aussi, des fois, de donner des choses. On est dans un rapport à l'objet différent. Quand on veut revendre, et certaines plateformes de seconde main sont plutôt sur un rapport à l'objet marchand, de se dire, oui, comment je peux faire toujours un peu plus d'argent sur les objets que j'ai chez moi. C'est bien par rapport à la volonté de donner une seconde vie à des objets, mais le rapport à l'objet est différent. On vient faire de l'argent dessus. Là, le don qui n'est pas centré sur l'argent, qui est sur l'objet, permet de valoriser le donateur et l'objet en lui-même. Autrement.
Je m'appelle Ahmed, je vais vous poser quelques questions. Combien vous gagnez dans cette métier ?
Alors, le chiffre d'affaires, c'est... je ne peux pas en parler comme ça, mais disons que l'intérêt pour nous, c'est de tout ce qui va être généré en chiffre d'affaires à la ressourcerie de Lille, va être, en tant qu'association à but non lucratif, va être réinjecté dans la structure. Investir dans du matériel pour pouvoir faciliter le travail, ou alors recruter un peu plus quand on se dit qu'on a besoin de plus d'équipes. En général, on n'a pas la capacité de pouvoir recruter autant qu'on souhaiterait. Ça demande beaucoup de travail quand même en ressourcerie. Mais on est une structure qui, à l'heure actuelle, a un budget, on va dire, de plus d'un million d'euros.
Bonjour.
Est-ce que vous trouvez votre bonheur ?
Oui, c'est mon deuxième tour. J'avais oublié mes sacs. Ouais. Donc, c'est la deuxième fois que je repasse et j'aime beaucoup venir ici.
21,45 €,
s'il vous plaît. Sans
vacances. Pourquoi vous avez choisi ces métiers ?
Alors moi, en ce qui me concerne, c'était de donner du sens à mon travail. C'était d'être en accord aussi avec mes valeurs, de trouver une activité qui me permette de, de croire en ce que je fais et de mettre en corrélation mes valeurs et ce que j'ai envie de laisser comme trace sur mon passage, on va dire.
Quels sont les points positifs et négatifs de ce métier ?
Les points positifs, c'est que justement, on a la chance de pouvoir œuvrer au quotidien dans une activité qui est souvent liée à nos valeurs. On a un impact direct sur le territoire. On sait que les objets qui arrivent à la ressourcerie, si on s'en serait pas occupé, bah, ils auraient fini en déchetterie ou incinérés ou enfouis, etc. Le négatif, je dirais que ça demande beaucoup aussi. On est très investi dans notre travail, on est très engagé. Mais globalement, au niveau de la structure, je dirais qu'on n'est jamais assez nombreux pour pouvoir gérer le volume d'objets. Et c'est ça qui est toujours complexe pour des structures comme les nôtres. On reste fragile hein, parce qu'on est des associations et qu'on a des enjeux qui font que voilà, on ne peut pas être 500 salariés pour pouvoir traiter le nombre d'objets qu'on traite à l'heure actuelle. Sur le mardi, là, moi je le vois, hein, la plupart, c'est plutôt toujours les mêmes à l'ouverture et surtout le mardi. Hein,
c'est par exemple, là, il y a quelqu'un que vous reconnaissez ?
Oui, il y a. Alors, allez-y. Des personnes étaient au niveau de la culture. Il y a le monsieur aussi qui est de dos sur les bijoux. Il y a des gens, ils viennent, ils sont très ciblés. Hein. Ils savent les rayons, donc je vais aller voir d'abord la déco, les bijoux, les ci, les ça. Ils ont leur domaine de prédilection. Il y en a qui vont faire tous les rayons. Et l'idée d'avoir créé ce parcours aussi, ouais, c'est pour permettre aux gens de circuler, mais de passer par les rayons et de se laisser des fois surprendre ou de se dire « Ah bah oui, en fait, en ressourcerie, il n'y a pas, quand on ne connaît pas trop, il n'y a pas juste que des meubles et de la vaisselle, il y a aussi des produits culturels, par exemple. Et il y a plutôt une belle offre en livre, etc. »
Il y a combien de ressourceries à la main ?
Alors, en ressourcerie, donc, qui font partie du réseau national des ressourceries qui répondent à la charte, il y a station-service, qui est aussi à Rosé, mais du côté de Rosé-Océane, qui était à la base spécialisé dans les matériaux et les matières premières, et qui aujourd'hui, avec notamment la boutique du grand magasin en centre-ville, permet d'être une ressourcerie. On est aussi à Sainte-Pazanne, on a le réservoir, qui est une ressourcerie qui fait partie du réseau national des ressourceries, et le Transistor à la Chapelle-sur-Erdre. Et au-delà de ça, on a aussi d'autres structures qui offrent dans le réemploi et qui sont... qui permettent d'avoir, on va dire, un maillage territorial. Sur Nantes Métropole, assez riche, on a l'Homme Debout au niveau des Dervalières, on a la boîte à récup, on a Supporter qui est spécialisé dans les articles de sport, qui fait que voilà, on peut trouver une solution à côté de chez soi ou en périphérie.
Si on va venir à la ressourcerie, c'est quand et où ?
Alors la ressourcerie de Lille, elle est au 90 rue de la Bastille à Rosé, donc on est facilement accessible puisqu'on est assez central et on est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h pour à la fois donner ou venir en boutique.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Mégaphone, l'émission de la rédaction. Vous venez d'entendre un reportage sur la ressourcerie de Lille à Nantes qui est menacée de fermeture et qui appelle à se mobiliser, notamment via une pétition disponible en ligne. Ce reportage a été effectué dans le cadre de Radio Métier, un atelier d'éducation aux médias proposé par le Sonolab de Jet FM. On enchaîne tout de suite avec un autre reportage concocté cette fois-ci par Mélissa Leroy, qui est allée à la rencontre d'une toute nouvelle ferme fruitière à La Chapelle-sur-Erdre.
Je suis en compagnie de Jean Roquevinet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes copropriétaire avec votre femme de la Cerise de l'Erdre, où nous sommes actuellement. Elle est située à La Chapelle-sur-Erdre, donc dans la zone nord de la métropole nantaise. Donc on dit la Cerise de l'Erdre, verger bio et convivial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, verger bio et convivial, donc un verger parce que c'est une ferme fruitière, donc production fruitière, il y a des arbres fruitiers, des cerisiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers, des vignes, des petits fruits, framboises, cassis, groseilles, fraises, etc. Bio parce que on est certifié agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, hein, bien sûr, pour la conduite des cultures et de la production. Et convivial parce que, dès le début, on a voulu que ce projet soit participatif. Donc ça s'est fait même dès le début pour même trouver le nom de la petite ferme. On a demandé aux gens de faire des propositions de petits noms pour le verger. Puis il y a eu plein d'étapes en fait. Et puis c'est allé même jusqu'au parrainage des arbres. On a fait une campagne de financement participatif pour financer les arbres fruitiers, qui a été un succès. Puis par la suite, convivial, parce que il y a une partie des fruits qui sera vendue en libre cueillette. Donc les gens pourront venir. Ça sera un moment sympa à passer en famille ou entre amis. On fera aussi des petites fêtes. Voilà, dans 3 ans, quand il y aura des cerises, on va instituer la fête de la cerise. Et voilà, on va faire des événements aussi pour les entreprises, du team building, des ateliers, des formations à la permaculture. Donc ça sera vraiment un lieu ouvert. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est déjà un lieu ouvert puisqu'il y a des chantiers participatifs pour m'aider en fait à mettre en place ce verger.
Et quand a débuté le projet ?
Il a débuté vraiment cette année, enfin en 2022, plutôt l'année dernière, puisqu'on a trouvé le terrain en février 2022. Mais c'est un projet qu'avec ma femme Floriana, qu'on a à l'esprit depuis au moins 4 ans, 5 ans. Donc c'est un projet que l'on a mûri et qu'on a défini avec le temps, avec nos expériences, et qu'on a affiné en fait au fur et à mesure. Avec ce terrain-là, le choix de la production principale, la cerise, qui est un clin d'œil aussi à la Chapelle-sur-Erdre. Il y avait beaucoup de production de cerises avant.
Et du coup, la volonté de faire participer en fait le public, pourquoi il y a cette volonté ? Est-ce que c'est une volonté une manière de se relier au territoire ?
Oui, tout à fait. Alors dès le début, ça a été mon but hein, de venir rencontrer tout le monde, tous les acteurs du territoire, tous les agriculteurs de la Chapelle sur Erdre. Hein. Il y a une association, la Ferme Chapelaine, où il y a tous les producteurs, quasiment tous en bio et très engagés, voilà, beaucoup en vente directe. Oui, dès le début, ça a été ça, s'inscrire dans ce territoire. Et puis, c'est aussi d'essayer de recréer du lien, en fait, entre le consommateur et le producteur. Donc producteur que je suis depuis quelques mois maintenant. Et du coup, de recréer du lien et de savoir voilà, comment poussent les choses, comment on produit de la nourriture, tout simplement. Puisque bah, quand on va au supermarché, on voit plein de produits et on n'imagine pas toujours comment sont produites les choses. Du coup, voilà, c'est pour recréer du lien et le lien avec l'alimentation en général, quoi.
Et est-ce que vous avez été aussi, est-ce que vous êtes aussi aidé par d'autres acteurs locaux ou non ?
Oui, tout à fait. En fait, quand on fait ce choix de s'installer, c'est-à-dire de devenir agriculteur, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour nous accompagner. Les services de la mairie, de la Chapelle-sur-Erdre, la chambre d'agriculture. Donc, à la base, je me suis formé à la Chambre d'agriculture et j'ai été accompagné notamment pour le chiffrage du projet que j'ai présenté après à la banque. Donc il y a mon partenaire bancaire, maintenant mon centre de gestion et puis bah, tous les fournisseurs en fait qui aussi donnent du conseil. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui travaillent en fait pour installer les jeunes et pour qu'ils soient bien installés, bien accompagnés et que le lancement se passe bien, quoi. Donc ça fait du bien d'être entouré aussi, puisque il y a quand même une complexité. C'est un métier qui reste assez complexe avec plein d'aspects différents qu'il faut gérer. Donc c'est une très bonne chose, oui.
Et si on reste sur le sujet du territoire, pourquoi la Chapelle-sur-Erdre ? Pourquoi en zone périurbaine nantaise ?
Oui, c'est vrai qu'on voulait être dans la petite couronne nantaise. C'est pour le dynamisme, je l'ai évoqué, de dynamisme au niveau agricole sur cette commune, avec les agriculteurs de la commune, de la ferme Chapelaine. Dès le début, je suis allé rencontrer beaucoup les acteurs de cette commune et j'ai eu envie, et Floriana aussi a beaucoup insisté, pour que ce soit vraiment dans cette commune-là, à la Chapelle-sur-Erdre. Et que oui, on reste aussi à proximité des villes, puisque c'est, enfin, de la ville, du coup, de Nantes, pour que ce soit aussi facile pour les citadins de venir, voilà, passer un petit temps sur le verger, ouais.
un des objectifs aussi de la cerise de l'Erdre, c'est de permettre de consommer des variétés de fruits anciennes et locales. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les spécificités arboricoles et fruitières de Loire-Atlantique ?
Alors effectivement, c'est surtout pour les pommiers, poiriers et pruniers. Donc on a en tout 300 arbres, 100 pruniers, 100 poiriers, 100 pommiers. Et là, effectivement, j'ai pris des variétés locales ou anciennes. Quand on pense variété fruitière, on est plutôt à l'échelle régionale. C'est-à-dire c'est des variétés, Rainette du Mans, Rainette d'Armorique pour les pommes. Pour les poiriers, on a la Beurée d'Anjou, par exemple. Des variétés de Sarthe, d'Anjou. Et aussi de Loire-Atlantique, on en a quelques-unes, notamment la pomme Chailleux Drador, qui est une pomme assez connue, puisque, enfin, en tout cas à Nantes, parce qu'elle est vraiment locale, il semblerait qu'elle vienne du pays de Châteaubriant. Et nous avons aussi, pour la poire, nous avons la Beurée des Enfants Nantais, qui est une variété nantaise, puisqu'elle a été obtenue par un chercheur, enfin un botaniste au 19e siècle, qui était nantais.
Donc ici, on pourra venir cueillir des cerises, des pommes, des poires. Est-ce que j'oublie quelque chose ?
Des prunes, des fraises. En premier, des fraises. On va implanter beaucoup de fraisiers en février, le mois prochain, pour pouvoir avoir des fraises, produire des fraises dès le mois de mai-juin. Et du coup, normalement, dans 5 ou 6 mois, on aura des fraises à cueillir sur le verger. L'année d'après viendront les petits fruits, fraises, groseilles, cassis, et puis les années d'après, les cerises, les pommes, les poires, les prunes.
Donc dans le déroulé de l'installation du verger, vous me disiez que vous étiez au niveau des plantations, que vous aviez planté avec l'équipe bénévole qui vous aide. 2/3 des arbres du verger. Si on a envie de vous donner un coup de main, où est-ce qu'on peut retrouver vos informations ?
Alors effectivement, en fait, on peut s'inscrire à la journée ou même à la demi-journée. C'est flexible, on vient un peu quand on veut pour donner un coup de main. Voilà, il n'y a pas de contraintes, c'est vraiment... Et alors pour trouver, c'est sur la page Facebook, La Cerise de l'Erdre. J'ai mis un formulaire en fait, un petit sondage où on a juste à écrire son nom, son numéro de téléphone et cocher une date. Et voilà, de venir quelques heures ou à la journée pour m'aider dans ce chantier, quoi.
Merci Monsieur Vinet, on suivra tout ça de très près.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre un reportage de Mélissa Leroy à propos de la ferme fruitière La Cerise de l'Erdre. À suivre dans un instant, Pensée locale, le programme de reportage court de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Tout de suite après, ce sera Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie, économie sociale et solidaire en Pays nantais et au-delà.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On va parler d'une compagnie et j'ai à côté de moi Clara Lerut, chargée de production de cette compagnie, qui va nous présenter la structure, nous dire comment elle est née. Bonjour. Alors c'est quoi les Mademoiselles ?
La compagnie Mesdemoiselles, elle est née en 2008. Elle a été créée par Claire Nouteau et Laure Bansillon, qui sont donc artistes de cirque et qui se sont rencontrés à l'école supérieure de Fratellini à Paris. Et donc la compagnie Mesdemoiselles, c'est une compagnie donc de cirque aérien, avec cordes lisses et cordes volantes. Et tous nos spectacles sont créés pour la rue. Donc on est aussi une compagnie d'art de rue. La compagnie s'est installée en 2008 aux Ulmes, à côté de Douai-la-Fontaine, où elle a monté un lieu de résidence, un lieu d'accueil pour les artistes. Et il s'est passé pendant longtemps des rendez-vous artistiques, donc des spectacles. Et après est née l'envie en fait que nous, on aille à la rencontre des habitants et que ce ne soit pas les habitants qui viennent dans un lieu fixe. Et donc on a acheté un chapiteau qu'on a appelé Mobile. Et l'idée de ce chapiteau, c'est de sortir trois fois par an dans des territoires ruraux et d'aller à la rencontre des habitants. Vraiment, ce projet, il est différent à chaque nouvelle édition, à chaque nouvelle implantation, puisque c'est un rendez-vous d'action culturelle et artistique. Et en fait, le programme, il est créé avec les habitants. On rencontre les associations, on rencontre les compagnies du territoire, les mairies, les communautés de communes, on va rencontrer les cinémas, voilà. On fait un premier appel et c'est en fonction de ces rencontres qu'on va créer un programme. Donc on va avoir des compagnies de théâtre, on va avoir des concerts, on va avoir des artistes de cirque évidemment, parce que ça nous plaît de programmer du cirque. Là par exemple, à Baugé-en-Anjou, on a des rendez-vous un peu insolites. On va avoir du light painting et de la réalité virtuelle et ça c'est une proposition du centre social. Donc nous on leur accorde dans le calendrier des soirées, ils font des propositions et nous on est juste là pour les accompagner et leur offrir un lieu éphémère. C'est pour ça qu'on propose aux habitants de participer dès le montage du chapiteau. Donc il est annoncé dans le flyer à chaque fois pour que les gens viennent voir en fait la montée de la toile et comment elle se déplie et participer voilà dès le début du projet à installer les caravanes, à installer le chapiteau et s'approprier justement cet espace. Bah justement on voulait jouer là-dessus sur ce côté assez populaire, assez joyeux du chapiteau, mais voilà, casser un peu l'image du cirque traditionnel et proposer plein de rendez-vous complètement différents sous ce chapiteau. Oui, on fait beaucoup d'ateliers qu'on appelle ateliers de médiation. C'est plutôt des ateliers où chacun est libre d'essayer. Donc on essaie les agrès, là on essaie le trapèze ou le tissu. Et après il y a tout un côté où ça va être plutôt des ateliers au sol. On essaie d'avancer ensemble, d'avoir quelque chose de rythmé. Mais c'est vraiment pour se sentir dans le groupe, avoir confiance en soi et après aller essayer les agrès. On n'est pas ici pour créer un spectacle, mais on est là pour essayer. Alors il y a toute une équipe administrative. Donc comme je disais, il y a Claire et Laure qui seront plutôt à la direction artistique, à la direction en général de l'association et de la compagnie. Ensuite, donc, il y a moi à la production et coordination. Donc moi, je vais réfléchir beaucoup en termes d'agenda et en termes de budget un petit peu. Voilà, je vais essayer de cadrer les idées. Je suis là pour les traduire, en fait, traduire une idée en projet viable. Ensuite, on a Delphine qui, elle, va être plutôt sur l'aspect financier. Donc, elle va faire les contrats, les payes, les dossiers de subvention. Et évidemment, derrière, on a toute une équipe technique. Donc on a Donatien et Tom qui voilà, traduisent aussi le projet en technique, mais aussi de toute l'installation du site. Donc les gars, ils sont là en amont parce que pareil, souvent on a envie de faire plein de choses, mais il y a des choses qui techniquement ne sont pas possibles. Donc ils vont aussi réfléchir où est-ce qu'on met le chapiteau dans la commune, comment c'est possible, comment on se raccorde en eau, en électricité. Voilà, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont beaucoup là pour plein de petites choses, beaucoup pour la cuisine. Ils tiennent le bar, la petite restauration et nous aident à installer tout ça évidemment. J'ai fait un parcours plutôt social avant, où j'ai travaillé en petite enfance et beaucoup en centre de loisirs et en collège. Progressivement, j'ai commencé à monter des projets qui alliaient et le social et le culturel. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à me diriger vraiment vers le culturel. Et progressivement, je suis arrivée vers le cirque. Et puis en fait, tout simplement, j'ai postulé à la compagnie Mesdemoiselles et je suis arrivée ici. Et dans nos bénévoles, on a des enseignants, des profs de techno, d'anciens fonctionnaires. Et la compagnie Mesdemoiselles a également un site, donc compagniemesdemoiselles.fr.
Michel Boutreux, RPSFM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.